sentiments
jusqu'à étouffer ton sort,
te détruisent pour du papier,
ensouiller tes profondeurs.
Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre.
Tes enfants t'entendent crier au centre ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, c'est charmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect, se sont appropriés ta chair. Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre. Pachamama, tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat. Pachamama, c'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi. Pachamama, ton vase rempli à rabord, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Ne veut pas voir, fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer, civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses, t'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance. À tous les enfants de la terre, le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillé tes océans, tes rivières et tes mers, et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, dérégler ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama,
bonsoir à tous, donc vous êtes bien sur FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3, pour l'émission Zoom Écologie, donc animée par Élise et Khaled. Et ce soir, nous recevons Sophie.
Bonsoir.
Et Maxime.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Alors, donc moi, je suis journaliste pour Basta. Basta, c'est une agence d'information sur les luttes sociales et environnementales. Alors, elle se veut avant tout cette agence participative. Et au tout début de Basta, en fait, c'est vraiment une volonté d'appel, un appel à la résistance face à la tournure des événements qui est prise, face à une crise globale à la fois environnementale, sociale, démocratique, financière. Et à partir de ce constat-là, en fait, on a on est une équipe de journalistes engagés, donc à la croisée des chemins entre diverses cultures militantes, associatives, syndicale, altermondialiste, l'idée étant de les confronter, les questionner et à un moment les faire se rencontrer.
D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver justement ce que vous écrivez ?
Alors, Basta, en fait, c'est www.bastamag.net. Peut-être que ce que je devrais préciser aussi, c'est qu'on se veut non seulement relais, mais on veut vraiment préserver notre vision critique. Voilà, interroger, questionner et faire connaître.
D'accord. Bah, merci pour la présentation. Alors Maxime, est-ce que tu peux aussi te présenter ?
Moi je suis un militant altermondialiste, impliqué dans des associations. J'ai longuement été impliqué dans RATAC et actuellement je le suis dans une association qui s'appelle l'ETEC, Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs, qui est une association qui vise à construire de l'expertise citoyenne à partir de l'expertise professionnelle et l'engagement d'un certain nombre de personnes qui travaillent sur les questions de dette, sur les questions de financement du développement ou sur les questions de rénovation urbaine. Et donc on vient en soutien et impliqué dans les mouvements sociaux, que ce soit en soutien aux DAL pour les questions urbaines ou en soutien au mouvement pour les taxations internationales sur les questions de financement du développement ou d'alternatives globales.
D'accord, bah, je te remercie. Et tu fais également partie de l'UCJS.
Et à ce titre-là, donc, je suis un des animateurs du collectif Urgence Climatique Justice Sociale, donc, qui est une coalition à l'origine d'Attaque et des Amis de la Terre, et qui regroupe un peu plus de 50 organisations, et qui a cet objectif-là d'essayer de mêler les enjeux climatiques et environnementaux et les enjeux sociaux, qui s'est constitué suite au Grenelle, à travers un Grenelle citoyen, et qui s'est réellement cristallisé dans la préparation de la mobilisation de Copenhague, et qui a été une des deux grosses coalitions françaises se mobilisant et essayant de démontrer que derrière les enjeux climatiques, c'était l'ensemble des questions de choix de production et de consommation et d'organisation de la société qui étaient posées. Et c'est toutes ces questions-là qu'on a essayé de questionner de poser à travers la mobilisation l'avant et l'après Copenhague.
D'accord.
Il y a combien de membres à peu près de ce collectif ?
Tu m'écoutes pas, j'ai dit qu'il y avait un peu plus d'une cinquantaine d'organisations qui participent et qui ont signé l'appel initiateur.
Et donc c'est au niveau international ? C'est ça ?
L'Urgence climatique justice sociale, c'est une plateforme française.
D'accord.
Mais qui est un peu la déclinaison française d'une plateforme beaucoup plus vaste qui regroupe des ONG, des syndicats de paysans, des coalitions qu'on connaît dans le mouvement intermondialiste comme Jubilee South ou la Via Campesina, et qui s'appelle Climate Justice Now, qui est une coalition qui est née il y a 2 ans. Considérant que les questions sociales et les questions de justice climatique n'étaient pas suffisamment posées dans les sommets, les grands raouts internationaux sur le climat, et qui donc s'est constitué pour essayer de poser ces questions-là, poser la question des marchés carbone, poser la question des droits des populations indigènes, poser la question des forêts réellement et la responsabilité historique des pays du Nord. Bon, on y reviendra peut-être plus tard.
D'accord. Donc vous êtes allés tous les deux à Copenhague. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la façon dont se sont déroulées les négociations de la place aussi des mouvements sociaux ? Je ne sais pas dans quel...
Alors, pour ma part, en fait, effectivement, j'étais envoyée à Copenhague par Basta. En tant qu'agence d'information sur les luttes environnementales et sociales, l'idée, c'était d'être à la fois au cœur des négociations officielles. Donc du coup, pendant les 15 jours de négociation, j'étais au Bella Center, lieu de négo officiel. Et puis, dans la journée, j'essayais autant que possible également de suivre les mouvements, notamment au Climat Forum, qui était le sommet alternatif, qui était situé tout près de la gare centrale de Copenhague. Voilà, alors est-ce que je commence peut-être par les négociations officielles ? Qu'est-ce que...
Juste, comment c'était aussi au niveau du Bella Center, au niveau du quand tu étais réellement sur le terrain ? Nous, on n'a pas cette vision-là. Comment c'était ? Il y avait des ONG qui étaient là. Raconte-nous.
En fait, c'était une méga structure. Quand on arrivait dans cette enceinte, en fait, il y avait un premier espace qui réunissait des ONG qui organisaient en fait des événements parallèles pendant toute la journée. Il faut savoir quand même qu'il y avait 20 000 ONG qui étaient accréditées. Et donc, dans ce premier espace, effectivement, chacune avaient son... Enfin, une partie d'entre elles avaient leur propre stand où elles pouvaient décliner leurs activités. Et puis, une possibilité également pour elles d'organiser des conférences sur des sujets particuliers. Voilà, donc ça se faisait en parallèle des conférences de presse officielles qui se tenaient également dans Bella Center. Et voilà... Avant de pouvoir se rendre en fait aux conférences de presse, il y avait un énorme media center avec à peu près, je sais plus combien de journalistes étaient accrédités. Je crois qu'on était près de 3000, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mais bon, en tout cas, voilà, on était plusieurs milliers et autant d'ordinateurs disponibles, donc c'était plutôt impressionnant.
J'avais entendu dire aussi qu'il y avait eu au début pas mal de badges délivrés aux ONG, et après il y en avait beaucoup moins. Est-ce que tu as été témoin de ça aussi ?
Oui, oui, absolument, effectivement. Donc 20 000 badges accrédités au tout départ. Et dans les trois jours avant la fin, on est passé de 20 000 à 1 000 badges pour des raisons de sécurité, avec l'arrivée des chefs d'État prévus les deux derniers jours des négociations. Et puis, le dernier jour, ça a été réduit à 90 observateurs.
Oui, ce qui n'est plus très inclusif en soi.
Non, la foire internationale s'était transformée en G20, où les grands chefs se réunissaient avec simplement les lobbies internationaux, mais des industriels et des financiers, et les ONG, la société civile, étaient renvoyés à l'extérieur pour protéger tout ce beau monde, pour nous faire aboutir à un magnifique et extraordinaire accord final qui ne règle en rien les enjeux climatiques.
D'accord. Et donc Maxime, toi tu as été plutôt où là-dedans ?
Moi j'étais à la fois accrédité, donc j'ai eu l'occasion de participer, de rentrer dans cette magnifique foire, parce qu'on avait des réunions le matin pour nous coordonner justement avec les représentants internationaux de nos ONG qui étaient à l'intérieur et qui suivaient les négociations, et le plus souvent à l'extérieur, que ce soit effectivement au Climat Forum qui était le sommet alternatif, une sorte de forum social organisé par des associations et des ONG danoises très impliquées sur les questions de justice sociale et de justice climatique, et aussi lors des préparations, des manifestations. Enfin, j'ai beaucoup contribué à essayer de contribuer à l'organisation des différentes manifestations et actions de rue qui ont pu se dérouler pendant les 15 jours du contre-sommet. Donc à la fois dedans, à la fois à l'extérieur, et voyant bien la différence qu'il pouvait y avoir entre le pessimisme montant et sans limite qui gagnait peu à peu le Bella Center, voyant que les négociations n'avançaient pas, et tout ce clivant petit à petit, et l'extérieur où en fait il y avait une excellente ambiance, une détermination assez impressionnante. Sur ce slogan qui restera un des slogans marquants de Copenhague, « System change, not climate change », que le système change pour sauver le climat, en gros, et qui a à la fois alimenté les débats au sein du Climat Forum. Donc il y a quand même 50 000 personnes qui sont passées dans le sommet alternatif, avec plus de 350 initiatives, des débats, des conférences, des ateliers de discussion, du théâtre, des concerts, des activités artistiques, des projections. Donc c'était super intéressant. Et c'est... On est revenu de Copenhague. Pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à tout ce qui était à l'extérieur, avec la pêche, considérant que ce qui s'était joué à Copenhague, c'était peut-être 10 ans après Seattle, un nouveau souffle pour le mouvement altermondialiste, une nouvelle étape de construction de ce mouvement.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors au niveau des négociations
Eh bien, en fait, un délégué soudanais qui s'appelle Lumumba Stanislas Diaping, l'a résumé comme cela, à savoir l'accord de Copenhague est le pire de l'histoire. Donc on peut peut-être partir de là. Cet accord-là, la conférence des parties, donc, qui réunissait 191 États parties, cette conférence-là, elle en a pris seulement note de ce pseudo-accord. Alors... cette déclaration, en fait, politique, parce qu'il faut bien être clair, on n'a pas un accord, on a une déclaration politique. Elle est le fruit de négociations qui ont été menées à 26 pays. Au départ, on parle bien de 191 États dans cette convention cadre. À la fin, on a 26 pays qui négocient. Et ces négociations-là, elles sont menées essentiellement le dernier jour par les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc, comme l'a dénoncé d'ailleurs tout à l'heure Maxime, et comme l'ont fait également plusieurs pays entre guillemets, en développement, et aussi une grande partie, enfin toute la société civile, on a clairement dénoncé le fait qu'on est passé d'un cadre onusien à une espèce de pseudo G20 ou G27, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Donc voilà, et de fait, cette tentative de coup de force sur la fin, elle pourrait vraiment remettre définitivement en cause le cadre multilatéral des négociations. Et puis, l'autre enjeu des négociations qui a fait, enfin, voilà, dont on peut tirer le bilan aujourd'hui, c'était que, au moment où on est arrivé là-bas, pour les mouvements sociaux, il y avait un véritable enjeu sur le maintien du protocole de Kyoto, qui avait pour particularité une dimension véritablement juridiquement contraignante. Et le gros problème, en fait, c'est que beaucoup disaient que le protocole de Kyoto allait expirer en 2012 et que la conférence de Copenhague allait poser les fondations d'un nouveau traité pour le remplacer, ce qui était faux, en fait. La première période d'engagement des pays dits de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays industrialisés, a commencé en 2008 et doit se terminer en 2012. Et en fait, Copenhague, ça devait être un lieu de négociation qui devait déboucher sur une nouvelle période d'engagement.
D'ailleurs, les ONG ont présenté ça comme c'était la dernière chance, c'était Copenhague.
Voilà, absolument. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en l'état, le texte proposé, il ne comprend pas d'objectifs contraignants, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et que donc récemment, le 31 janvier, les pays se sont contentés d'envoyer leurs objectifs de réduction, mais sur une base unilatérale interne. Donc sans contrainte, ce qui signifie pour l'Union africaine, la mort du protocole de Kyoto, pour elle, c'est la mort de l'Afrique.
Mais le protocole de Kyoto, il a été aussi un peu remis en question. C'est-à-dire que finalement, c'était contraignant qu'au niveau de... Enfin, c'est le seul accord qu'il y avait eu dans le passé. Et c'était au niveau de l'OMC, justement, que ça a été. Et donc finalement, ça signifie un peu... Enfin, dès que ça a été appliqué, en tout cas dans l'Union européenne, c'est la finance carbone, plus ou moins. Maxime, est-ce que tu veux bien...
L'intérêt du protocole de Kyoto, c'est qu'il différenciait clairement la responsabilité des pays du Nord vis-à-vis de ce qui sont appelés les pays en développement, considérant que l'ensemble des pays, donc l'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont émis 77% des gaz à effet de serre jamais émis sur la planète. Et à partir de là, le réchauffement climatique actuel est dû à ces 77% de gaz à effet de serre qui ont été émis. Donc nous avons une responsabilité historique et donc nous devons nous engager à des réductions bien plus importantes que les autres pays qui sont en train de se développer, qui aujourd'hui sont devenus de gros pollueurs, mais qui ne sont pas responsables du réchauffement climatique actuel. Donc nous devons nous engager à la hauteur de ces enjeux-là, à la fois en termes de réduction et en termes de financement. Le protocole de Kyoto reconnaissait cette responsabilité historique, et c'est la raison pour laquelle nous défendions cette responsabilité et ce protocole-là. Après, le protocole de Kyoto a plein de limites. Il était pas très engageant, les engagements qui ont été pris étaient très limités par rapport aux enjeux, et puis les solutions qui sont mises en place, effectivement, sont des solutions qui sont plus proches des marchés et du business as usual que de la remise en cause fondamentale du modèle de production et de consommation des pays du Nord. Donc, raison pour laquelle, effectivement, on avait un avis assez... assez à la fois critique, mais à la fois de « attention, c'est le peu que nous avons, il ne faudrait pas le brader parce qu'un certain nombre de pays et d'États du Nord, comme l'a dit Sophie, négocient un nouveau protocole et un nouvel accord sans qu'il soit ni contraignant, ni à la hauteur des enjeux, ni en mesure de réellement faire face au dérèglement climatique actuel. En termes de financement, le protocole d'accord de Copenhague permet des financements soi-disant de court terme. Pour l'instant, on n'a pas toujours vu le moindre euro mis sur la table, réellement, concrètement, de manière sonnante et trébuchante. Donc oui, on avait un avis assez diffus sur le protocole de Kyoto, mais par contre, on a un avis très clair sur ce qui est sorti de Copenhague. Cette déclaration-là ne doit pas être la base des négociations à venir. Et si on continue sur cette base-là, effectivement, il n'y aura aucune résolution des enjeux climatiques simplement par des négociations internationales, sauf si les mobilisations citoyennes arrivent à construire un rapport de force suffisant pour l'imposer de l'extérieur. Et c'est tout l'enjeu de cette année 2010.
D'accord. Merci. Tu veux poursuivre ? Donc on enchaîne avec une petite chanson.
reçois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins, aux vibrations bien trop pures pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. C'est que le charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama.
Donc vous êtes toujours sur Zoom Écologie. Donc vous venez d'écouter Pachamama, donc de Kenny Arcana, et vous êtes avec Sophie, donc de Basta. Donc vous pouvez retrouver ces articles sur le site
www.bastamag.net,
et avec Maxime, qui est membre de l'ETEC.
Oui, l'ETEC est un des animateurs du collectif Urgence Climatique, Justice Sociale.
Voilà, donc on va revenir sur Copenhague. Après avoir évoqué les négociations, qu'est-ce qu'il en résulte ? Quels sont les engagements des pays ? Est-ce que Sophie, tu peux nous en parler ?
Oui, donc effectivement, en fait, dans l'accord qui a été signé, enfin en tout cas dans l'accord dont la conférence a pris note, Il y a sur ces trois pages des annexes qui étaient pour l'instant blanches. Et ces annexes-là, elles étaient censées mentionner les objectifs de réduction des émissions. Et les pays signataires de la Convention s'étaient engagés à remplir ces annexes au 31 janvier. Donc on a eu quelques retours de ces pays-là. Qu'est-ce qu'on constate ? Donc du côté des pays... je ne sais pas trop comment les appeler, et des pays émergents, l'Inde, le Brésil ou la Chine, ou l'Afrique du Sud, on a des objectifs assez ambitieux. Ça va de... sans rentrer dans les chiffres, on est quand même sur une tendance où ces pays-là vont plus loin, en fait, que l'Union européenne.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on ait un peu à l'esprit l'ambition, par exemple, prendre un pays.
Par exemple, le Brésil, via la déforestation, ou en tout cas le contrôle de la déforestation plutôt, affiche l'ambition de réduire de plus d'un tiers ses émissions actuelles d'ici à 2020. Et en parallèle, on a une Union européenne qui nous annonce depuis plus d'un an entre moins 20 et moins 30%. On s'attendait vraiment à Copenhague à ce qu'elle s'affiche comme en tête, en fait, pour mener les négociations. Donc un vrai moins 30% de réduction d'ici à 2020 par rapport à 90. Elle en est restée à moins 20%. On a des États-Unis qui attendent la validation de leur processus législatif interne pour confirmer leur moins 17% par rapport à 2005. Et donc, en fait, grosso modo, à part la Norvège et le Japon, qui affichent respectivement moins 30, moins 25%, on est sur des objectifs très en deçà de ce que préconise le GIEC, donc le groupement intergouvernemental des experts du climat, qui donc préconise en fait des réductions de... Alors qui préconise en fait moins 40%. Là, en l'état actuel, si on additionne les promesses faites à ce jour par les différents pays, on est plutôt sur une augmentation de température de 3 degrés, alors que le GIEC préconise une stabilisation à 2 degrés maximum.
Pourtant, 15 jours avant Copenhague, il y a eu des articles un peu partout comme quoi il n'y avait pas vraiment de réchauffement climatique, ce qu'on appelait les climato-sceptiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? Parce que 3 degrés, bon, on en parle, mais c'est quoi la vérité selon vous?
C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, on a l'impression que Copenhague est arrivé à Paris, avec la neige partout et tout ça. Il y a les 1,50 m de neige qu'il peut y avoir à Washington. Et effectivement, le dérèglement climatique, ou le réchauffement climatique, on n'est pas très certain. Le dérèglement, peut-être. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les analyses scientifiques démontrent que le réchauffement climatique à l'échelle de la planète est déjà là. Il y a une augmentation de 0,8 degrés par rapport au début de l'ère pré-industrielle, et que les prévisions que l'on peut faire sur la base des émissions actuelles vont entraîner une augmentation de la température au-delà des 2 degrés pour peut-être 3 ou 3,5 à l'échelle à la fin du siècle. On peut considérer, comme le font les climato-sceptiques, que ces études-là ne sont pas sérieuses. De mon point de vue, je considère qu'il n'est pas sérieux de ne pas considérer ce travail-là qui a été mené par des milliers de chercheurs à travers la planète, qui compilent l'ensemble des productions scientifiques qui ont été faites et qui considèrent qu'à partir de là, il y a un faisceau d'indices suffisamment important pour considérer que le réchauffement climatique est bien présent, qu'il est produit par l'activité humaine et qu'il serait criminel de ne pas s'en préoccuper et d'essayer de limiter ces dérèglements à venir. En fait, on est devant la situation suivante. Nous avons un faisceau d'indices qui nous disent que suffisamment sérieux, qui nous disent que le dérèglement climatique en cours a de très fortes chances de s'accentuer jusqu'à 3 degrés ou 3,5 degrés ou 4 degrés, et que ne rien faire reviendrait à considérer que tous ces éléments-là, qui sont fiables à 95-99%, ne sont pas suffisants et qu'il faudra atteindre 100%. Le problème, c'est que la science et la climatologie ne permettront jamais d'atteindre une certitude sur les conséquences à 100%, et que nous avons besoin donc par un principe de précaution évident, de considérer qu'il y a suffisamment d'éléments pour agir tout de suite. D'autre part, le fait qu'il y ait des débats au sein de la communauté scientifique sur l'analyse de telle ou telle donnée, sur les conséquences que ça entraîne à 20 ans, 30 ans, 50 ans, est plutôt une très bonne chose. Une science où il n'y a pas de débat, c'est un dogme qui s'impose à tout le monde. Ça veut dire un dogme qui s'impose à la démocratie, c'est la fin de la démocratie. Donc nous avons besoin effectivement d'une science qui puisse débattre. Les climato-sceptiques ont essayé de montrer qu'il y avait des erreurs dans les rapports du GIEC. On peut considérer qu'effectivement qu'il y a des éléments qui sont suffisamment imprécis. Il y a effectivement une donnée sur le rythme de fonte des glaciers en Himalaya qui est assez peu précise, mais tout ça est assez limité par rapport à l'ensemble des preuves qui sont présentes dans les rapports de 300 ou 500 pages qui démontrent que le dérèglement climatique est actuellement présent.
Sophie, tu voulais également intervenir par rapport aux climato-sceptiques ?
Oui, par rapport aux climato-sceptiques, effectivement, Maxime disait qu'il n'y avait jamais 100% de certitude. Aujourd'hui, le GIEC s'accorde dans son rapport scientifique de 2007 sur une probabilité de moins 90% que le changement climatique en cours soit d'origine anthropique, d'origine humaine. Bon, du coup, on peut aussi se dire, on peut aussi partir, enfin, supposons qu'on part de la proportion inverse, qui est seulement 10% de chance que ce changement climatique soit lié à une origine humaine. Ça vaut quand même le coup, mais tu l'as mentionné, Maxime, de faire face, d'anticiper, par principe de précaution, justement. Et voilà, tout simplement parce que ça vaut le coup pour l'humanité de tout faire pour diminuer ces émissions-là. Et puis, autre chose, en fait, donc effectivement, les climato-sceptiques ont eu pas mal le droit à l'antenne ces derniers mois, enfin, en particulier depuis Copenhague. Il y a eu une intervention récemment sur France Culture d'un climato-sceptique, Vincent Courtillot, qui reprochait en fait au GIEC d'être politisé et de vouloir absolument, alors je vais citer ses propos, absolument bouleverser l'économie mondiale pour réduire les émissions de CO2 et faire changer le monde. Mais on pourrait tout à fait lui retourner la question et lui demander, est-ce que refuser de changer notre système productiviste n'est-il pas tout autant politique ? Et pour le coup, les médias ont tout à fait oublié de lui retourner la question.
Non, mais la question, là, effectivement, ce point est assez fondamental. Que l'on soit ou pas confronté à un réchauffement climatique, mais toutes les preuves montrent que c'est le cas. On est de toute façon confronté à une révolution énergétique qui va nous tomber en pleine face, compte tenu de la raréfaction des ressources énergétiques, compte tenu de la raréfaction des ressources minérales auxquelles nous sommes de toute façon confrontés. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous voulons subir cette révolution énergétique et ces transformations-là qui vont nous être imposées, ou est-ce que nous voulons les anticiper pour les utiliser afin de construire un monde meilleur ? L'ensemble des mouvements dans lesquels nous participons, d'une manière ou d'une autre, disent « nous devons anticiper pour essayer de construire démocratiquement la société que nous voulons et ne pas nous la laisser imposer par des choix lorsque nous n'aurons plus le choix ».
Et on a typiquement, pour illustrer cette anticipation, l'exemple des villes en transition, le réseau des Transition Town, qui justement... face à ce défi à la fois du changement climatique et du pic pétrolier, décide d'anticiper, de s'organiser en amont, de mobiliser les citoyens via des réunions publiques, via une forte sensibilisation sur les effets du changement, pour mettre en place d'ores et déjà des initiatives locales qui existent d'ores et déjà en France, mais qui manquent simplement d'être mises davantage en réseau. Ça peut être des jardins potagers, ça peut être... bon, effectivement, je pense au premier exemple, c'est l'agriculture qui me vient en tête avec les AMAP, mais tu pourras peut-être me compléter, Maxime, avec des exemples.
Mais en fait, il faut arriver à articuler pour faire face au changement climatique et pour essayer de transformer la société dans laquelle nous voulons. Nous devons articuler à la fois des initiatives de ce type, des initiatives, on va dire, citoyennes, des initiatives locales, construisant d'ores et déjà des alternatives concrètes, donc que ce soit dans l'agriculture, dans l'isolation thermique, dans la reconstruction de logements aux normes environnementales, dans l'auto-organisation, la relocalisation économique, le fait de construire des bassins d'emploi, d'activité qui ne soient plus dépendants d'acheminement de matières premières ou de marchandises venant de l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, mais ça ne peut se faire et se généraliser qu'à partir du moment où on aura des politiques publiques nationales ou locales également, et des régulations internationales qui le permettent et qui le favorisent et qui l'amplifient. Et donc ça suppose qu'à un moment donné, on ait aussi des ruptures en termes de politique publique. Il faudra trouver des financements pour le faire. Donc il y a des questions de fiscalité écologique qui se posent. Et à l'échelle internationale, il faudra aussi établir une nouvelle répartition des richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud pour que les pays du Sud s'adaptent au réchauffement climatique et puissent également développer des biens de première nécessité tels que l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, qui nécessitent des ressources que pour l'instant ils n'ont pas et que nous devrons leur fournir en limitant nos consommations et nos productions de biens qui ne sont pas nécessaires.
Est-ce que les mouvements sociaux justement qui ont participé à Copenhague, donc vous nous avez dit que tout le monde, enfin la majorité des personnes sont revenues un peu pessimistes, mais il y a toujours une forte volonté de se mobiliser ?
Ah mais les gens qui ont participé au sommet officiel effectivement sont revenus assez déçus et catastrophés par le résultat de Copenhague, mais l'ensemble des citoyens, militants, sympathisants qui ont participé au sommet alternatif, qui ont participé aux manifestations, qui ont participé aux actions de rue sont revenus avec une patate d'enfer. Et j'en veux pour preuve des militants qui ont fait 14 heures de car pour venir, ou 24 heures de car, excusez-moi, 24 heures de car pour venir de Paris à Copenhague pour manifester pendant 5 heures, venir 2 heures au Climat Forum et repartir tout de suite après avec 24 heures de car pour entrer à Paris. Et ils sont rentrés avec une pêche d'enfer en disant à quand la prochaine ? Comprenant bien que dans la manifestation, la détermination des manifestants qui étaient là, le fait que les exigences soient radicales et de nature a profondément transformé le modèle de société dans lequel nous voulons. Quand on dit system change, not climate change, quand on dit qu'on veut réellement une transformation du monde dans lequel nous vivons, bon, ben voilà, ça donne la pêche à tout le monde. Et pour repartir dans son propre pays et construire des mobilisations ici en France, construire des alternatives locales, et essayer aujourd'hui de transformer le monde dans lequel nous vivons, parce que ce monde est producteur d'injustice, est producteur de dérèglement climatique, et producteur de phénomènes antidémocratiques, liberticides, tel qu'on le voit avec Nicolas Sarkozy.
D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont même développé des liens ensemble, qui étaient dans ce fameux car, ce fameux train, qui est parti à Copenhague et qui, du coup, il y a plein de militants qui, un peu de partout de France, se sont rencontrés, se sont découverts un peu dans ce lieu et qui ont gardé des liens après, parce que j'étais allé donc samedi au Rassemblement national donc, d'urgence climatique, justice sociale, et vraiment, il y a eu pas mal de liens qui sont créés, une vraie force qui est revenue de Copenhague, qui est à la pêche.
Plusieurs forums sociaux, c'était un des meilleurs. Bien que ce ne soit pas typiquement un forum social, c'était... il s'est passé quelque chose à Copenhague. Ça n'a peut-être pas la même répercussion médiatique que Seattle lorsque le sommet de l'OMC a été chamboulé et stoppé il y a 10 ans, en 1999, et qui était un peu le moment originel symbolique de la construction du mouvement altermondialiste. Mais Copenhague, en termes de construction de mouvements sociaux, en termes de, effectivement, de liens noués et de suite et de perspective, est peut-être tout aussi important, c'est l'avenir qui nous le dira, que Seattle.
Mais justement, j'ai entendu qu'il y avait des dates importantes de rassemblements, de réunions. Donc ça va être l'occasion pour ces mouvements aussi de mettre en pratique un peu ces envies, quoi, de réaliser des mobilisations, tout ça.
Nous,
est-ce que
France,
vous pouvez un petit peu nous
Le collectif Urgence Climatique Justice Sociale a invité tous ceux qui le souhaitaient à participer à une réunion de débat à la fois de bilan et de perspective samedi dernier. Donc on pourra en reparler en termes de perspective. Au niveau international, la Bolivie et Evo Morales ont proposé et ont invité en fait l'ensemble des pays, l'ensemble des scientifiques, l'ensemble des ONG et l'ensemble des mouvements sociaux à se réunir à Cochabamba du 22 au 24 avril, avec cette idée qu'il fallait créer un événement pour pouvoir relancer les négociations et créer un rapport de force internationale pour justement faire en sorte que les solutions qui aujourd'hui ne sont pas sur la table parce qu'elles sont refusées par un certain nombre de pays, notamment les pays du Nord, puissent être mises en discussion. Et ces solutions sont forcément des solutions antinomiques avec les marchés financiers, antinomiques avec la mainmise des multinationales sur les ressources du Sud, que ce soit les forêts ou les ressources naturelles. Et donc la proposition de Morales, c'est effectivement de réunir l'ensemble de tous ceux qu'ils veulent pour essayer de discuter à la fois sur le cœur des négociations et aussi sur les éléments qui ne sont pas dans les négociations et éventuellement proposer un référendum mondial. Ça, c'est la perspective que Morales s'est donnée, justement sur ces enjeux-là. Il est dans cette idée que la Révolution française, notamment, a amené les droits et libertés fondamentales, que le mouvement ouvrier a amené les droits sociaux et que là, nous devons développer de nouveaux droits qui soient des droits liés à l'environnement, à l'écologie, au respect des écosystèmes et que donc, pour cela, nous devons créer effectivement ce rapport de force international et nous pouvons le créer à la fois en mobilisant les mouvements sociaux, les ONG, les associations, les syndicats, mais aussi en s'appuyant sur des pays qui sont à la pointe de cette lutte-là, et Morales et la Bolivie et d'autres pays dans le monde le sont. Donc ce sommet de Cochabamba est relativement important dans la construction de ce rapport de force, avec les perspectives de la réunion intermédiaire de Bonn, qui sera donc la réunion intermédiaire entre Copenhague et Mexico, entre les deux grandes conférences des parties.
Ça va se passer, ça va se dérouler à quel moment, ça?
Ça, c'est fin mai, début juin, du 29 mai au 11 juin. Et c'est un moment important parce que ça a lieu en Europe, que l'Union européenne devait être le leader, comme on l'a dit, se présente comme le leader des négociations, et ce n'est pas le cas. C'est aussi important parce que l'Union européenne a développé un marché carbone qui ne fonctionne pas. On le voit, il suffit de lire Le Monde de cet après-midi et voir que ces marchés-là sont catastrophiques en termes de fraude, en termes de régulation, en termes d'efficacité. Donc il faut mettre toutes ces questions sur la table, et Bonn doit être un moment relativement important pour les mouvements sociaux en Europe pour construire ce rapport de force-là au niveau européen.
D'accord. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Mister Gang, Partir ailleurs. Et puis après, bah, on va reprendre notre discussion.
Je rêve d'une vie meilleure, libre et loin des pavés. Je rêve de partir ailleurs, oh, tout quitter, tout recommencer. Je rêve d'une vie meilleure, libre et loin des pavés. Je n'ai plus d'envie, plus de sang. C'est dur de croire à cette vie, cette rengaine. Oh non, non, je veux pas finir ici. J'étouffe la pression de l'étau, me crève, me courbe le dos, alors je rêve. Je rêve de partir ailleurs. Je rêve d'une vie meilleure, libre et loin des pavés. Je rêve de partir ailleurs, oh, oh, tout quitter, tout recommencer. Je rêve d'une vie meilleure, libre et loin des pavés. Un endroit qui ferait repartir en moi l'étincelle. Que je redécouvre enfin la vie et ses merveilles. Plus de problèmes des qualités, plus de problèmes de mendicité. Plus de gosses dans les rues en train de pleurer. Non plus aucun de mes frères enfermés. Je rêve et j'ai longtemps rêvé de pouvoir partir un jour et tout recommencer.
Je rêve de partir ailleurs.
Salut à tous, enfin re-salut, donc vous êtes toujours sur FPP, l'émission Zoom Écologie. Donc vous venez d'écouter Mister Gang avec Partir ailleurs. Et donc on continue à parler de Copenhague et puis de l'après-Copenhague. Alors Maxime, donc toi qui es membre, comme on l'a dit, de l'UCJS, donc Urgence Climatique, justice sociale. Donc tu nous as dit qu'il y avait une réunion nationale, c'est ça
qui il, y a une, oui. Il y a une réunion nationale samedi dernier qui a discuté du bilan de Copenhague et des perspectives.
Alors.
Et les perspectives sont au-delà des dates internationales qui ont été mentionnées, donc Cochabamba, Bonn et le prochain sommet à Cancun au Mexique. L'idée est d'essayer d'intervenir plus précisément sur justement les questions et les enjeux de finance carbone. Nous ne voulons pas confier la régulation du climat et la régulation de l'environnement aux marchés financiers. Ces marchés-là sont inefficaces. Ils sont instables, dangereux, et en plus, c'est des opportunités, des effets d'aubaine pour les industriels et les financiers de cette planète, dont on voit bien que les agissements ne favorisent pas une société juste et équitable quand on voit la crise financière dans laquelle on est tombé. Donc nous voulons intervenir précisément, essayer de porter cette question un peu fortement, proposer et soutenir toutes les initiatives qui vont permettre ou défendre les idées de taxation internationale, que ce soit des taxations sur les transactions financières qui permettraient d'obtenir des fonds suffisant pour financer le développement des pays du Sud, financer l'adaptation des pays du Sud et aussi la transition de nos économies pour aller sur des modèles beaucoup plus soutenables. Nous souhaitons aussi combattre les fausses solutions que peuvent être la taxe carbone de Nicolas Sarkozy en France ou la taxe carbone aux frontières pensée dans un monde de compétition internationale qui est proposée aujourd'hui à la frontière de l'Union européenne. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de porter donc, en termes de campagne nationale ou internationale et tout en exigeant donc, d'autres politiques sur le plan national, notamment le respect des engagements du Grenelle et tout ça, mais qui pose aussi la question des mobilisations locales et des luttes et des alternatives concrètes.
Alors Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces initiatives locales ?
Alors en tout cas, moi j'étais présente à la réunion du 6 février d'urgence climatique, justice sociale. Alors il y a beaucoup de choses qui existent et beaucoup de choses qui ont été dites cet après-midi-là. Alors en particulier, il y a un accent qui a été mis sur les plans climat-énergie territoriaux. Là-dessus, je crois que Raled... Et encore meilleur que moi.
Qu'est-ce que c'est, Raled, un plan
Alors, un plan climat-énergie territorial, c'est une planification, en gros, un plan d'action, on va dire, qui est mis en place pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et adapter les territoires donc, qui les mettent en place. Souvent, c'est les collectivités qui les font. Ça peut être les régions, les départements et les communes, les intercommunalités. Donc voilà, en gros, c'est mis en place par des collectivités. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un peu le facteur 4, donc les divisions par 4 des émissions de gaz à effet de serre, qui est l'objectif que s'est fixé la France pour 2050, dans son plan climat national aussi. Donc en gros, voilà ce que c'est. Il n'y en a pas énormément en France, mais ça fait partie de l'une des initiatives du Grenelle, d'obliger, d'ici 2012, toutes les villes ayant plus de 50 000 habitants, de passer à un plan climat-énergie territorial d'ici 2012. Donc voilà pour résumer un peu ce que c'est.
Oui, enfin, ils existent d'ores et déjà en Nord-Pas-de-Calais et puis en Pays de la Loire, mais il y en a certainement d'autres.
Mais ça, c'est les plans climat-énergie citoyens mis en place par des associations et des citoyens qui disent ben, « Vous, collectivité, vous avancez pas assez vite, donc on va vous aider la main. Nous allons construire une proposition de transition qui respecte les exigences fixé par la science de 40% de réduction, de division par 4 d'ici 2050, 40% en 2020, voilà. Et sans utiliser les ressources fossiles ou sans utiliser le nucléaire pour certains d'entre eux. Donc c'est en fait effectivement une planification pour essayer de faire transiter nos modèles économiques et sociaux vers ce qui serait soutenable à terme.
Exactement, en fait. Donc, en gros, ils vont encore plus loin que les plans climat-énergie officiels. Ils proposent aussi une sortie du nucléaire. Ce pourquoi ils ne sont même pas financés par les régions, parce que, oh là là, être anti-nucléaire en France, ce n'est pas bien.
Alors, également, dans cet après-midi-là, l'idée, c'était d'illustrer le fait que ce qui est beaucoup ressorti, l'universel, c'est le local sans les murs. Et pour illustrer ça, en fait, a été donné l'exemple des circuits courts en matière d'écomatériaux, parce qu'aujourd'hui, l'habitat écologique est à la mode et c'est tant mieux. Toutefois, ça reste très difficile de pouvoir se procurer des écomatériaux au niveau local. Il y a des filières qui sont en train de se mettre en place et la chargée de campagne des Amis de la Terre qui était présente parce que les Amis de la Terre viennent de sortir un guide sur ces questions-là, à donner quelques pistes pour favoriser ces filières. Autre point également mis en avant, donc on a parlé des plans climat, on a parlé de l'habitat écologique, on a également parlé de la question des transports, et notamment du fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie attaque du fret ferroviaire via la politique menée par la SNCF. Un appel a été lancé ce jour-là, initié par Sudrail et rejoint par 11 organisations associatives, syndicales et politiques. Cet appel, il est en ligne, il s'intitule « Construire les mobilisations populaires pour une politique des transports de marchandises vraiment écologique et sociale ». Voilà, donc une question des transports à vraiment ne pas oublier. Il ne faut pas effectivement oublier que récemment, une des victoires des mouvements, ça a été l'abandon du circuit de Formule 1 à Flins, au profit justement de la mise en place et de la récupération de terres pour installer des agriculteurs en bio. Donc comme quoi, se battre mène parfois à quelques victoires, donc il faut s'en réjouir. Est-ce que j'oublie des choses pour les personnes qui étaient présentes?
Oui, il faut gagner sur un projet gouvernemental et soutenu par la région Pays de Loire et la ville de Nantes, qui est de développer un nouveau vel aéroport pour la métropole nantaise à Notre-Dame-des-Landes. Et il y aura à ce titre-là une mobilisation d'une semaine qui s'appelle la régionale tracto-vélo, parce qu'ils vont faire le tour des Pays de Loire en vélo et en tracteur du 1er au 6 mars 2010, et qui se conclura par une manifestation à Nantes. C'est pareil, c'est une bataille qui est gagnable et qu'il faut imposer, parce qu'elle contredit et les engagements du Grenelle et les engagements de réduction de gaz à effet de serre qui ont été pris par la France. Donc il faut se mobiliser là-dessus. Et l'idée du collectif Urgence Climatique Justice Sociale, c'est de faire le pont entre ces batailles, mobilisations alternatives locales ou concrètes, et les revendications globales, et de montrer que tout ça est cohérent et s'inscrit dans une même logique de transformation réelle et véridique et profonde de notre modèle de société.
D'ailleurs, je crois que vous avez aussi un projet justement pour mettre en avant les alternatives. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
L'idée, c'est que effectivement, après Copenhague, on a vu l'échec des négociations officielles et que nous avons donc besoin de mêler ces revendications globales avec des alternatives concrètes. Et quoi de mieux que d'aller à la fois au cœur du capitalisme mondial en crise,
aux États-Unis, vous n'avez pas peur, là.
Et au Canada. Non, parce que quand on regarde une ville comme Détroit, qui est complètement ravagée par le désastre économique, c'est une ville, et c'est les États-Unis, dans certains États, il y a un certain nombre d'alternatives réelles, concrètes, pour essayer de faire face justement à cette crise économique qui est de plus en plus profonde. Donc nous allons à la fois au cœur de ce capitalisme mondialisé et aussi dans le berceau des alternatives les plus intéressantes de ces 20 dernières années, c'est-à-dire en Amérique latine, pour essayer de revenir avec quelques bonnes idées à faire connaître, à développer en France des idées qui permettent justement à la fois de faire face aux enjeux climatiques et environnementaux tout en respectant des critères de justice sociale et d'exigence démocratique sans lesquels il n'y aura pas de transition et il n'y aura pas de solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Ça fait penser au discours de Sarkozy quand il a été élu, qui a dit « on se dirige vers l'Amérique, vers les États-Unis ». J'aurais espéré qu'il aurait parlé un peu de l'Amérique latine, donc c'est très bien que vous en parliez, parce que des alternatives, il y en a pas mal là-bas. Vous avez parlé d'Evo Morales, il y a des choses qu'on ne dit pas aussi sur Cuba, comme quoi c'est le seul pays au monde à respecter un peu les engagements de l'ONU du millénaire, qui au niveau de l'empreinte écologique arrive à atteindre donc des niveaux d'empreinte écologique assez immenses, tout en ayant pas mal de social aussi dedans. Toutes ces choses-là, donc bravo quoi, là-dessus. Et justement, alors, vous prévoyez quoi? Vous avez commencé par où?
L'idée, c'est de partir à la rencontre, pas de l'Amérique de Nicolas Sarkozy, mais de l'Amérique des mouvements sociaux, et de commencer par le Forum social des États-Unis qui se tiendra justement à Détroit, puis de se rendre au Forum social des Amériques, puisqu'on est dans une année de Forum social mondial, mais de Forum social mondial décentralisé. Donc nous allons nous rendre au Forum social des Amériques qui se tiendra au Paraguay à Asunción, et nous remonterons la cordillère des Andes pour finir à la suite de Copenhague à Mexico à la rencontre justement des mouvements sociaux mobilisés.
Voilà, et en fait on mettra tout au long de, tout au long de ces 7 mois de reportage en valeur, donc ces rencontres sur un site en cours de construction, www.alter-eco.org. Alter Eco, en fait, c'est l'association qui porte ce projet. Et voilà pour l'essentiel. Ce qui est certain, c'est que l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des initiatives et des expériences locales concrètes, tant dans le domaine écologique que dans le domaine social, qui existent ici et maintenant et qui attendent et qui méritent qu'une chose, c'est d'être connues, confrontées, analysées et relayées.
D'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour nous expliquer tout ça.
Merci à vous de nous avoir invités.
Merci voilà. beaucoup.
Et à très bientôt.
À très bientôt. On va lancer juste une petite information donc de solidarité. Donc demain à la rôtisserie, donc rue Sainte-Marthe à Paris, a lieu un repas de soutien pour les déboulonneurs, donc qui est donc un collectif qui lutte contre le système publicitaire en place. Et donc qui ont été assignés en procès le 12 mars. Donc demain, à partir de 19h30, vous pouvez aller manger solidaire, voilà, pour soutenir les déboulonneurs.
Je voulais aussi annoncer par rapport à ce que tu avais dit qu'il y a aussi un virage énergie qui est en train de se former en Île-de-France. Donc ce sera virage énergie Île-de-France et l'Assemblée générale constituante qui aura lieu donc le 9 mars. À la coopérative, donc il y a un bar coopératif qui fait partie aussi des alternatives à ce capitalisme qui descend pour l'instant et qui est donc c'est à métro, enfin le lieu c'est rue Lagile et sous métro Guy Môquet qu'on pourrait aller donc regarder un peu sur internet dès que ça sera annoncé quelque part.
Donc c'est le 9 mars et on se quitte en musique avec Béchaud de 17 Hippies.
Ah, c'est vrai.